Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est une pratique qui impacte notre santé, notre rapport au corps, nos émotions et parfois même notre façon de voir les choses, bref, qui infuse notre quotidien. Dans cet épisode, on retrouve Taïa Véry, que vous aviez peut-être déjà écouté dans l'épisode sur la maternité. Aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, la peur. Que ce soit les angoisses qui nous paralysent dans certaines situations, les insécurités qui nous empêchent d'avancer, ou l'anxiété qui nous gâche la vie au quotidien. Alors on va explorer avec Taïa comment apprivoiser ses peurs et les dépasser grâce au yoga. Bonne écoute! Bonjour Taïa, merci beaucoup d'être à nouveau avec moi dans ce podcast après l'épisode qu'on avait consacré à la maternité il y a quelques mois.
Merci à toi de me recevoir encore.
Alors peut-être pour ceux qui n'avaient pas écouté cet épisode, est-ce que tu peux nous rappeler déjà pour commencer ton histoire à toi et ton parcours en tant que prof de yoga ?
Alors donc moi je suis prof de yoga depuis 12 ans maintenant, le temps passe. Et j'aime bien raconter une des anecdotes qui constitue le début de ma pratique. Moi, j'ai commencé quand j'étais en train de... Après une formation de psychomotricité, j'ai fait un premier virage pour devenir professeur des écoles. Et pendant que je préparais le concours, à l'époque, c'était l'IUFM, je devais réviser notamment les maths, et c'était ma bête noire. Et je me rappelle que comme je stressais et je procrastinais, et je sentais sans doute en arrière-plan que j'étais pas à la bonne place, j'étais dans une maison de vacances et j'avais trouvé dans le garage de cette maison une porte qui était sortie de ses gonds. Et donc comme le terrain sur lequel j'étais était un peu vallonné, j'avais posé la porte pour avoir un espace plane, pour pouvoir poser mon tapis et faire mes salutations sur la porte à l'horizontale. Et j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle est assez représentative en fait de mon approche de la pratique, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on est. On pratique quand c'est possible, de la façon dont c'est possible. Et je pense que ça a pas mal caractérisé aussi ma façon d'aborder l'enseignement, c'est-à-dire d'essayer de mettre l'accent sur l'intention et sur le fait d'être proche de la personne ou des gens en fonction de qui est là. Et j'ai toujours essayé à la fois de respecter, on va dire, la tradition, en tout cas ce que c'est dans le fond que cette pratique, qui est avant tout une pratique de présence, de conscience, et en même temps d'y mettre une forme de liberté, de créativité. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant d'offres sur le marché. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents, avec une forme de concurrence aussi dans le monde de cette profession. Et du coup, ça m'a donné un rapport assez détendu en fait à la pratique et à mes propositions. Et je pense que c'est une chance parce que du coup, j'ai pu assez vite mettre dans mes propositions d'enseignement des choses qui étaient à la fois pure yoga et à la fois pas totalement. Donc voilà, c'est comme ça que je me définis. Et ça me permet aujourd'hui d'accompagner des gens qui sont par exemple des ados, j'accompagne une jeune fille qui prépare son bac par exemple, mais aussi des sportifs de haut niveau qui préparent des compétitions, des musiciens. Donc ça me permet d'accompagner un public assez large et de faire en sorte que le yoga ne soit pas réservé à une certaine population.
Et c'est aussi pour ça que toi tu aimes bien nous faire des propositions thématiques. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est celui de la peur, ou plutôt des peurs, et qui nous concerne absolument tous et toutes, c'est quelque chose que tu nous avais proposé dans un stage sur plusieurs semaines. Et donc j'aimerais savoir pourquoi tu avais choisi ce sujet, comment ça t'était venu en tête de parler de la peur et de travailler là-dessus à travers le yoga.
Alors moi, ce que je constate, c'est que la peur, comme tu viens de le dire, elle est... entre guillemets, elle est partout, alors elle peut prendre plein de formes. Donc j'avais parlé dans l'atelier de la peur, mais aussi de ses dérivés, donc on peut parler du stress, de l'anxiété, de la timidité, du trac, etc. Donc ce qu'on appelle peur, en fait, ça regroupe plein d'autres émotions sous-jacentes. Et ce que je remarque, c'est que déjà n'importe qui arrive sur un tapis de yoga, en général, a une de ces formes de peur. Donc ça peut être, un homme qui arrive et qui est entouré dans une salle de femmes, et donc il peut avoir une forme d'appréhension, une forme de trac, de stress, etc. Ça peut être la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à sa place, etc. Et donc c'est une émotion qui, de toute façon, est présente tout le temps, qui fait aussi partie de mon expérience, parce que parler devant un groupe, c'est pas forcément quelque chose de toujours facile, donc j'expérimente aussi le stress, le trac, ce genre d'émotion. Et en fait, ce qui me surprend toujours, c'est que le monde émotionnel, il est omniprésent. ce qui fait qu'on se met en mouvement. D'ailleurs, le mot émotion, dans le mot émotion, il y a la notion de mouvement. Et donc, ce qui fait qu'on se met en mouvement dans notre vie de tous les jours, tous autant qu'on est, c'est le monde émotionnel. Or, c'est un monde qui, dans nos sociétés, est plutôt considéré comme bon, bah, c'est là, mais faut pas que ça prenne trop de place, faut pas que ce soit trop visible, il faut essayer de gérer, essayer de contenir, essayer de contrôler, etc. Et c'est pas ma croyance, en fait. Je pense qu'il y a une autre façon d'aborder le monde émotionnel. Et je trouvais que c'était d'utilité publique d'aborder déjà globalement la notion des émotions, et en plus, en particulier, celle de la peur. Dans un espace comme ce rectangle de caoutchouc que représente un tapis yoga, où en général, on a une forme de disponibilité mentale aussi pour entendre à la fois les sensations et à la fois ce que va nous dire la personne qui guide.
Et pour toi, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette émotion? Comment elle se distingue d'autres émotions? Peut-être déjà par le fait qu'on ne la reconnaît pas toujours, comme tu le disais, elle peut se confondre avec plein d'autres choses, ou en tout cas, c'est un peu flou, on n'arrive pas trop à cerner, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est autre chose?
Je vais citer tout de suite Issa Padovani, qui est une personne qui parle beaucoup de communication non violente. Et elle évoque une expression en fait que j'aime bien. Elle parle des MAI, c'est-à-dire les multiples aspects intérieurs. Et je pense que ça résume assez bien en fait ce qui nous définit, c'est-à-dire qu'on est tous. Elle représente ça avec un schéma assez rigolo. Elle met autour de ses doigts des bagues avec des petits yeux. Et donc ça représente un personnage qui parle, et puis un autre qui parle, etc. Et l'autre illustration que j'aime bien, je l'ai regardée il y a deux jours avec mes enfants, c'est le dessin animé Vice Versa. Si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une petite fille. On est dans sa tête avec les différents personnages, la joie, le dégoût, la peur, etc. Et effectivement, dans notre organisation à la fois cérébrale et physique. C'est un peu représenté comme un millefeuille. Et donc, ce qu'on peut croire être de la colère, ça peut être de la peur derrière. Par exemple, je sais pas, mon enfant traverse la route, mon premier réflexe, ça va être de le gronder, en fait. Donc de montrer plutôt de la colère, alors que ce qu'il y a derrière, c'est la peur que j'ai eue pour lui. Ça peut être de la tristesse apparente de, je sais pas, arrêter un poste que je suis en train de... un métier. Et en fait, derrière, il y a aussi, ou mélangé avec, la peur de l'inconnu, etc. Mais ce qui nous permet quand même en général, de définir ce que c'est que la peur parmi les autres émotions, c'est qu'elle a pour caractéristique, entre autres, de nous figer. En général, c'est une émotion qui fait qu'on est freiné, qui fait qu'on s'arrête. Et sur le plan physique, on va pouvoir distinguer des éléments précis. Par exemple, les épaules qui montent, par exemple, la tendance à se replier sur soi. Ça peut être aussi, évidemment, le miroir de la respiration. Donc, en général, quand une peur survient, il y a d'abord un arrêt assez bref de la respiration. Et ensuite, la respiration peut reprendre, mais de façon plus accélérée. On peut aussi évidemment voir des manifestations, alors soit visuelles comme des tremblements par exemple, mais aussi des perceptions assez nettes comme de la transpiration, ce genre de choses. Donc on peut quand même définir physiquement, par des sensations, les contours de la peur.
Ouais. Et ça c'est peut-être plus évident d'ailleurs quand c'est une peur aiguë. Bon, effectivement, tu traverses, il y a une voiture qui passe à fond, tu manques de te faire renverser. Là, tout de suite, on a toutes ces manifestations, mais c'est peut-être parfois aussi plus insidieux quand c'est une peur un peu chronique, une anxiété qui s'installe, mais sans qu'on ait identifié la cause. Et là, peut-être que le yoga, justement, peut nous aider à identifier ces symptômes plus subtils.
Mmh. Alors déjà, je pense qu'une des clés, et c'est ce qu'on fait dans la pratique du yoga, c'est de régulièrement s'arrêter. Parce qu'en fait, si on s'arrête pas, on peut pas sentir. Il y a un certain nombre de sensations qu'on vit en permanence, mais qui sont en dessous du seuil de la conscience, parce que tout simplement, on a des niveaux de stimulation autour de nous qui font que c'est difficile en fait de faire le tri. Donc la première étape, c'est de s'arrêter pour observer comment je suis installée dans l'espace, par exemple, comment je suis assis ou comment je suis debout, de sentir le corps et de voir quelles sont les zones d'appui. Est-ce que effectivement je sens dans ma posture quelque chose qui peut me donner des indications en fait sur mon état global? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis centrée? Est-ce que je suis... De faire ça régulièrement, c'est par contraste qu'on va pouvoir au fur et à mesure définir mieux comment notre posture d'abord physique nous raconte en fait notre état intérieur. Quand on fait ça, s'arrêter et déjà conscientiser la façon dont on s'installe dans l'espace, on muscle ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité à sentir comment on est installé dans l'espace. Et la deuxième étape, ça peut être, est-ce que j'arrive à sentir mon tonus musculaire? Est-ce que j'arrive à sentir comment mes muscles ou mes tendons sont contractés ou plutôt relâchés? Est-ce que j'arrive à observer quel est le niveau, par exemple, d'humidification dans la bouche? Ça peut donner des indications sur... parce que souvent, quand on a peur, on peut saliver beaucoup ou au contraire avoir la bouche sèche, mais en tout cas, on n'est pas dans un entre-deux. On peut aussi aller encore plus en profondeur dans l'organisme et percevoir quel est mon battement cardiaque, quelle est la vitesse de ma respiration. Et tout ça, ça nous donne des indications. Et là, on est sur un autre versant de la capacité à sentir son corps, qu'on appelle, si je prends des termes vraiment, on va dire scientifiques, qu'on appelle l'interoception. Hein. C'est la capacité à sentir comment ça se passe au niveau de l'intérieur, des muscles, des tendons, du système nerveux, etc.
Et toi, tu parlais aussi de rester avec sa peur une fois qu'on l'a identifiée. Qu'est-ce que c'est cette idée et pourquoi c'est important de savoir rester avec une émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit la peur ou une autre?
Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est que quand on fait une expérience, n'importe quelle expérience de notre vie quotidienne, le réflexe qu'on a depuis tout petit, c'est de catégoriser ce qu'on est en train de vivre. Soit l'expérience est positive, agréable, et dans ce cas-là, je cherche à la prolonger, soit elle est catégorisée comme négative, désagréable, inconfortable, et je cherche à l'arrêter. Et quand je cherche à l'arrêter, en général, j'ai deux biais sur lesquels je peux agir. Soit j'essaye d'arrêter les stimulations extérieures. Si j'écoute de la musique trop fort, je vais baisser. Enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc j'essaye d'agir sur le monde matériel extérieur. Soit je vais agir sur l'intérieur, c'est-à-dire, souvent ça donne des comportements type addiction en fait. Hein, donc je vais chercher à compenser, à me divertir, etc. Du coup, le problème qu'on rencontre avec ça, c'est que par définition, tout ce qu'on vit, on ne pourra pas le transformer. En fait, il y a des choses avec lesquelles on doit faire. Donc quand je parle de rester, et là aussi je recite Issa Padovani qui nous parle d'une expression qui est un mot valise en fait qu'elle a inventé, qui s'appelle la restabilité. Donc c'est cette capacité effectivement à rester avec et à prendre conscience que l'émotion que je suis en train de traverser est inoffensive. C'est-à-dire qu'elle peut être extrêmement intense, mais en réalité, elle ne me tue pas. Donc déjà de pouvoir prendre conscience de ça. Et ensuite, et ça fait partie des choses les plus importantes que j'ai envie qu'on garde à l'esprit à la fin de cet épisode, c'est le but de la pratique du yoga n'est pas de contrôler mieux ses émotions, n'est pas d'avoir des outils pour essayer de devenir une sorte de maître qui ne ressentirait plus rien. Au contraire, l'invitation, c'est de laisser une place à l'émotion, d'accepter les moments où on ne va rien pouvoir changer. Et l'étape d'après, l'étape Jedi, c'est de la laisser non seulement être là, mais prendre de la place, c'est-à-dire de la laisser être en expansion à l'intérieur du corps. Si je sais que l'émotion est là, que ce soit de la peur ou une autre, et que je ne peux pas l'enlever, en fait, et que ce n'est pas le but, de toute façon, si j'essaie de l'enlever, ce qui va se passer, c'est simplement que je vais la refouler, en fait, hein, donc c'est une fausse solution. Mais c'est d'utiliser le corps physique et de laisser non seulement l'émotion être là, mais prendre toute la place dans l'organisme. Et à ce moment-là, quand on revient à la perception tactile de l'émotion et qu'on la laisse prendre de la place à l'intérieur du corps, par exemple, on peut à ce moment-là faire un son associé à l'émotion, on peut chanter l'émotion, on peut bouger l'émotion. Comment ce serait si je bougeais ma peur? Comment ce serait si je chantais ma peur? Comment ce serait si je criais ma peur? Et à ce moment-là, on passe par le corps physique et on est dans une forme d'expression. Et laisser l'émotion être là et la laisser prendre de la place, c'est la façon la plus directe de la traverser et donc de la dépasser d'une certaine façon.
Et par exemple, du coup, à travers le yoga, toi, qu'est-ce que tu nous proposerais pour laisser cette peur prendre de la place tout en arrivant à la dépasser, à ce qu'elle ne nous submerge pas? Ça peut passer par quoi? Par un travail postural, j'imagine. Après, tu nous parleras peut-être effectivement des chants, de mantras, de choses comme ça. Mais au niveau de la posture, qu'est-ce qui te paraît intéressant?
Alors déjà, ce qui est vrai, c'est que de la même façon que la plupart de nos émotions se traduisent sur notre posture et sur notre expression faciale, par exemple, changer notre posture et changer notre expression va d'une certaine manière avoir l'effet inverse. Le simple fait de changer d'attitude posturale change l'attitude intérieure. Par exemple, comme je disais, la peur a tendance à nous, voilà, à nous figer, à nous refermer au niveau des épaules, etc., à faire monter le niveau de la respiration. Donc le fait de se tenir, par exemple, dans la posture de la méditation, donc le dos bien droit, les fesses, le bassin bien ancré dans le sol, un port de tête qui s'étire vers le haut, etc. Tout ça, ça a déjà tendance à modifier tous les circuits intérieurs. Une autre chose que je trouve très intéressante, un des points clés qu'on peut utiliser, c'est de revenir aux cinq sens. C'est ce qu'on pourrait appeler schématiquement la pleine conscience. Hein, donc je vis une émotion de peur. La première étape, c'est une question clé, c'est qu'est-ce qui est stable en ce moment? Donc basiquement, où sont posés mes pieds? où est posé mon bassin? Est-ce que je peux toucher un espace qui est solide, une table, un mur? Voilà, ça c'est un truc qu'on utilise beaucoup chez les personnes qui souffrent d'anxiété. Quand il y a un moment donné, on sent que l'anxiété monte. Une question simple, rhétorique, qu'on peut se rappeler comme un mantra, qu'est-ce qui est stable en ce moment? Et après, si on élargit le champ, ça peut être devenir plus conscient de qu'est-ce que je suis en train de voir? Quelles sont les variations de couleurs, de textures, de lumière, d'ombre que je suis en train d'observer? Qu'est-ce que je sens au niveau de ma peau? Qu'est-ce que je sens au niveau de mes narines? Qu'est-ce que je vois avec mes yeux? Qu'est-ce que j'arrive à percevoir avec mes oreilles? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la peur, c'est une émotion qui est directement associée à la projection. Dans l'immense majorité des cas, ce qui nous fait peur n'existe pas dans la réalité, c'est notre cerveau qui projette, qui imagine. Donc revenir aux cinq sens, c'est l'antidote pour éviter de partir dans les vélos mentaux.
Oui, tu parlais de chercher ce qui est stable, ça c'est aussi donc la notion d'ancrage. Est-ce qu'il y a des postures d'ancrage, de confiance qui peuvent nous aider à accentuer ce travail-là, au lieu de, enfin, en plus de simplement le faire quand on est debout ou assis, mais à travers certaines postures de yoga aussi?
Oui, déjà toutes les postures debout vont permettre d'éliminer la dispersion, elles vont développer l'ancrage, elles vont permettre d'accentuer la détermination aussi. Dans les dérivés de la peur, on a aussi la notion de manque de confiance en soi. Donc travailler sur la confiance en soi, sur la détermination à travers des postures comme le guerrier 1, le guerrier 2, la posture de la déesse, etc. Tout ça, c'est des postures qui vont renforcer. Hein, et donc, c'est très très important. On va pouvoir aussi agir sur toutes les postures type flexion avant, comme Paschimottanasana, la pince, Uttanasana, la pince debout, etc. Parce qu'elles vont rassurer et permettre aussi la récupération. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'émotion peur, elle est absorbée par les tissus comme un stress. Et le stress, ça génère de la fatigue. Donc ça nécessite un temps de récupération proportionnel au temps de fatigue. Or, si on est sur une anxiété latente, un peu sourde, qui va devenir une posture intérieure, on a besoin de beaucoup de temps de récupération. Pour ça, les flexions assises vont beaucoup aider. On va aussi beaucoup mettre l'accent sur la tenue prolongée des postures. C'est vrai que la peur est souvent associée à une forme d'agitation globale. On a du mal à rester statique. Et le simple fait de, avec le corps physique, de rester, de maintenir de façon prolongée les postures, va permettre d'apaiser le mental, le système nerveux.
D'accord. Oui, tu parlais de postures de récupération et qui rassurent. Moi, j'aimerais bien en partager une que tu nous avais proposée, que j'avais beaucoup aimée. C'était celle de Balasana, donc la posture de l'enfant. Sauf que la petite variation, c'était de le faire avec une main, en fait, sous le front, où le front repose dans la main, du coup, et l'autre main sur le dessus de la tête. Et ça, j'avais trouvé que cette posture était vraiment très agréable et très réconfortante, encore plus qu'un Balasana classique, qui est déjà pas mal. Donc... voilà, je pense que celle-ci, elle est bien aussi.
Je pense que là, tu mets l'accent sur une chose importante qui est la capacité à un moment donné à se rassurer soi-même. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et moi, c'est quelque chose que j'ai en tête à chaque fois que je donne un cours, c'est que les adultes que nous sommes, sommes d'anciens enfants. Et l'enfant qui est en nous n'est pas très loin, au fond. On a simplement appris à mettre des voiles, à cacher un peu, au fond, notre enfant intérieur, mais il n'est pas loin. Et quand on est enfant, si on a la possibilité d'avoir ce cadre-là, on va chercher à être rassuré par les parents, par les personnes qui sont des référents pour nous, et on va chercher ça de façon extrêmement régulière dans la journée. Et quand on devient adulte, on n'a plus ça. Une des clés que moi j'ai à cœur d'enseigner à mes élèves, c'est que on peut apprendre des outils pour s'offrir ça à soi. Et ça fait partie d'un des concepts qui me semble les plus importants pour être des humains sains, c'est la notion d'indépendance émotionnelle. Et pouvoir à un moment donné, et j'en parle beaucoup dans les ateliers intensifs, s'offrir du toucher. Et s'offrir du toucher, ça peut être simplement apposer une main sur une épaule, ou comme tu l'évoques dans la posture de Balasana, apposer une main sur le front et l'autre derrière la tête. C'est se mettre à un moment donné dans une posture qui est une posture entre guillemets de régression, dans une posture qui nous rappelle aussi cet enfant intérieur, et pouvoir être à la fois la mère et l'enfant, d'une certaine façon. Et ça, je pense que quand on souffre d'anxiété, mais même pour n'importe qui, on a besoin, c'est extrêmement nourrissant de pouvoir s'offrir ça.
Alors oui, toi, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'Ayurveda, et il y a souvent des notions intéressantes pour aborder les émotions, les énergies. Donc en Ayurveda, comment elle est vue, la peur, à quoi elle est associée, et comment du coup on peut travailler dessus avec des conseils tirés de l'Ayurveda?
Alors en Ayurveda, la peur, on l'appelle Bayanaka. Donc c'est une émotion qui a deux caractéristiques. Donc là, je vais employer des termes un peu sanskrit, mais je vais expliquer. La première, c'est que c'est une émotion dite tamasique. Donc, en gros, il y a différentes qualités de la nature dans la vision ayurvédique. Donc il y a tamas, rajas et sattva. Et en gros, en très schématique, tamas, c'est un terme sanskrit qui parle de l'obscurité, hein, qui associe cette qualité à la notion d'inertie et de frein. Donc on a vu tout à l'heure, hein, que la peur, c'est une émotion qui nous fige et qui nous rend inerte, qui nous empêche, en fait. Donc, une des idées principales en Ayurveda, ça va être, de façon schématique, d'aller de tamas vers sattva. Sattva, c'est un terme sanskrit qui désigne, par opposition à l'obscurité, qui désigne la transparence, la luminosité. Et donc l'idée, c'est de passer de l'inertie vers la lumière, de passer de l'inertie vers l'énergie. Donc ça, on peut le faire en stimulant, en faisant circuler l'énergie à l'intérieur du corps, par exemple des salutations au soleil, par exemple des postures debout, par exemple du travail respiratoire comme Kapalabhati, la respiration du feu. Tout ça, ça va permettre que tout ce qui s'est engrammé, tout ce qui s'est d'une certaine façon calcifié à l'intérieur du corps puisse se remettre en mouvement. Et voilà, donc c'est un peu ça en fait, aller de tamas vers sattva, c'est laisser circuler ce qui a besoin de circuler, ce qui s'est engrammé, ce qui s'est coincé.
Ouais, à travers de la danse aussi, notamment.
À travers de la danse aussi, notamment. Effectivement, je travaille beaucoup, ça fait partie aussi des choses que moi j'amène dans la pratique, parce que ça fait partie de ce qui m'accompagne le plus dans ma vie quotidienne. C'est le mouvement libre, c'est la danse, c'est le lien avec le son. La pratique du yoga, c'est une pratique magnifique et merveilleuse, et qui a des limites comme toutes les pratiques. Et celle que je vois, moi, dans mon expérience de plus de 15 ans de pratique quotidienne, c'est que ça reste une pratique relativement géométrique, qui donne un cadre. Mais pour moi, le cadre, il est toujours fait pour se hisser au-dessus et pour, à un moment donné, être déconstruit. Et donc, je trouve qu'en parallèle et en complément de la pratique des postures, c'est très intéressant de permettre à tout le monde d'avoir un rapport à son corps qui est un rapport plus aquatique, qui est un rapport plus aérien, qui est un rapport plus rond, en fait, que la pratique du yoga nous invite à le faire, et encore plus que la sédentarité et la déconnexion avec son corps. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai à cœur de proposer et qui permet aussi une circulation d'énergie qui est très efficace, comme aussi ce qu'on a fait aux sessions intensives, qui est la pratique de ce qu'on appelle le shaking. Donc c'est, en gros, c'est simplement se mettre debout et se secouer, en fait, sur place. Donc on peut le faire sans musique, mais ça marche quand même mieux avec du son. Et ça permet une vraie libération de l'énergie, une connexion aussi à la joie, qui est quand même très importante quand on souffre d'anxiété. Voilà, donc ça fait partie des multiples aspects qu'on peut travailler. Et en parallèle de ça, ce que nous dit l'Ayurveda, c'est que la peur, c'est une émotion qui est associée au dosha Vata. Donc Vata, c'est l'énergie du vent, c'est l'énergie de l'air, et donc c'est la tendance à ruminer dans les pensées, c'est la tendance à l'agitation physique, etc. Donc là, on va plutôt, en parallèle de cultiver la joie, d'essayer d'aller de l'inertie vers le mouvement, on va plutôt travailler le calme, l'ancrage, essayer d'avoir des postures plutôt type yoga restauratif, plutôt des respirations qui vont permettre le ralentissement du système nerveux. Donc on peut dire que c'est une approche qui est complémentaire, qui est binaire et complémentaire entre générer du mouvement de façon progressive et modérée, et en même temps permettre des temps de calme, des temps de récupération.
Tu parlais de joie, ça c'est vrai que c'est aussi l'idée de cultiver des antidotes en fait à la peur, c'est-à-dire d'autres émotions qui vont venir contrebalancer, atténuer la peur.
Dans l'approche du monde émotionnel, en particulier de la peur, on peut distinguer deux moments. Donc un moment qu'on pourrait appeler la phase aiguë, donc ça c'est le moment où je vis l'émotion forte, donc là il y a un certain nombre de choses à faire. Puis après il y a les entre-deux, où je ne suis pas en train de vivre l'émotion de façon aiguë, mais qu'est-ce que je peux faire pour être dans une forme d'apaisement, de guérison, de prévention par rapport à cette émotion, surtout si j'ai tendance à la vivre de façon récurrente. Et pour ça, c'est intéressant d'aller cultiver ce qui est dit dans la citation, c'est-à-dire de mettre le plus souvent possible dans l'organisme, de faire baigner l'organisme dans un contexte de détente musculaire et nerveuse. Donc ça peut être, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la pratique du shaking, la pratique de la danse libre, la pratique du chant aussi. Ça peut être des choses très simples de la vie quotidienne, comme aller le plus possible dans la nature, faire de la place dans sa vie pour la présence de l'eau. Donc ça peut être des bains, ça peut être la présence d'une rivière, ça peut être boire suffisamment. En fait, l'eau a un effet, et l'Ayurveda en parle aussi beaucoup, a un effet très très apaisant, très très apaisant, pardon, sur le système nerveux. Ça peut être des méditations thématiques autour de, par exemple, la méditation de l'amour bienveillant, qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet. Et ça, c'est vrai que ça permet d'une certaine manière de contrebalancer cette tendance à la contraction qu'on peut ressentir quand on souffre d'anxiété, et de permettre au corps d'expérimenter le plus souvent possible des émotions contraires, des antidotes. Ça n'empêche pas de vivre l'émotion dite désagréable, mais ça crée une forme d'immunité, en fait. C'est un peu comme quand je fais le parallèle avec la santé. Le problème, c'est pas le virus, c'est le terrain. Et si on est sur un terrain, si on est sur une immunité qui est relativement forte, le virus, il a moins d'impact sur l'organisme. C'est la même chose avec le monde émotionnel.
D'accord. Et oui, tu parlais du pouvoir du chant. Est-ce qu'il y a des mantras aussi, peut-être, sur lesquels on peut s'appuyer pour les gens à qui ça parle, qui aiment bien en utiliser, sur cette idée de la peur et de la confiance en soi ?
Déjà, le chant, quel que soit... Bon, moi, j'ai une approche qui peut être... Je vais donner une réponse claire sur les mantras, mais j'ai toujours une approche assez libre. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui, dans le chant, va permettre d'être bénéfique. Et on voit bien dans énormément de traditions qu'il y a la présence du chant, notamment dans les prières, par exemple. Et donc, c'est intéressant d'essayer de voir si, pour soi, le chant, de manière générale, mais ça peut être le chant de n'importe quelle chanson, est bénéfique, puisque de toute façon, ça va générer une vibration. Ça va permettre aussi un relâchement au niveau du diaphragme, en sachant que le diaphragme, c'est le muscle respiratoire. Donc, c'est un des premiers muscles qui se contracte quand on a une émotion comme la peur. Donc, c'est un très, très bel antidote de chanter, de manière générale. Ça peut être simplement chanter sous sa douche. Après, si on parle des mantras en tant que tel, il y en a plusieurs. Donc, par exemple, l'âme. Donc, chanter plusieurs fois l'âme, c'est un mantra qui est associé à l'ancrage, à la force, à la sécurité. On a aussi Ram, qui est associé à la confiance en soi. On va avoir Sham, qui est associé à la paix. On a évidemment un qui est très connu, qui s'appelle Om Shanti. Donc là, c'est aussi la paix. Et puis, plus basiquement, tout simplement, chanter Om au début d'une pratique, à la fin d'une pratique. C'est toujours intéressant parce qu'évidemment, c'est des sons qui sont associés à des vibrations particulières hein, dans la vision ayurvédique et qui vont permettre de faire baigner les cellules dans une certaine vibration et d'avoir des effets globaux.
Tu nous avais parlé aussi de quelques mudras qui pouvaient aider dans ces postures, notamment ces postures qu'on va tenir longtemps, dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va apporter d'utiliser des mudras, des gestes des mains et des doigts ?
Alors, les mains, en fait, c'est comme une sorte de... On parle en réflexologie des pieds comme représentation miniature de l'ensemble du corps, on pourrait en parler aussi au niveau de l'oreille par exemple, et les mains c'est la même chose dans la vision ayurvédique, c'est-à-dire que les mains vont permettre, au niveau de la circulation de l'énergie dans le corps, vont permettre de finir la posture, donc d'accentuer les effets d'une posture. Donc pour ça on peut travailler avec deux mudras principaux, il y en a un qui s'appelle Vaikara Mudra, qui consiste à, par exemple dans la posture de la déesse, à se placer avec les bras en croix, donc on vient placer un avant-bras devant sa poitrine et le second devant le premier. On peut éventuellement placer les mains un peu comme si on mettait des barrières à droite et à gauche. Donc c'est un mudra qu'on appelle le bouclier protecteur. Et c'est comme son nom l'indique, hein, en fait, ça permet de générer une sensation d'être protégé. On peut même associer ça à une visualisation, par exemple, se mettre dans la posture de la déesse, pratiquer ce mudra et visualiser qu'on porte autour de nous un grand manteau bleu. Et ça associe en fait le travail de la visualisation, de l'imagination avec le travail du mudra. Et ça va permettre d'ancrer à l'intérieur des neurones hein, des circuits qui associent un moment à un temps de détermination, un temps d'ancrage, un temps de sécurité. Et l'autre, qui est intéressant, qui peut plutôt se pratiquer assis en posture de méditation, qu'on appelle Abhaya Mudra, qui consiste à placer la main droite un peu comme si on disait bonjour à quelqu'un, et la main gauche qu'on va plutôt placer devant soi, donc ça peut être au niveau du pubis posé devant soi entre ses jambes, la main gauche qui va être en coquille avec la paume tournée vers le haut. Et ça c'est un mudra qui va beaucoup pacifier le dosha vata, qui va beaucoup apaiser le système nerveux, qui va aussi procurer de la sécurité, de la confiance en soi.
Et alors... Quand on avait fait ce stage, tu nous avais donné une sorte de petite trousse de secours yogique en cas de peur. Est-ce que tu peux nous rappeler les bons gestes d'urgence quand on se retrouve face à une situation où on sent que voilà, la peur commence à nous paralyser, alors pour quelque raison que ce soit ?
Alors déjà, si c'est possible, mais ça l'est rarement, sinon ça suffirait, mais c'est d'arrêter la stimulation. Première chose, évidemment, si c'est possible. Ensuite, se rappeler... que ce qu'on est en train de ressentir, c'est une émotion, que cette émotion est inoffensive, qu'elle a sa place. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, revenir aux cinq sens, comme je disais. Donc, qu'est-ce qui est stable ? Ça peut être aussi s'offrir du toucher. Et plus on va le faire, plus on va, encore une fois, créer des circuits neuronaux qui vont associer le fait de s'offrir du toucher à ok, en fait, tout va bien. Hein, c'est des choses qui se font en silence dans le corps, mais qui se font. Une autre chose aussi que j'utilise beaucoup avec mes élèves qui sont des sportifs de haut niveau et qui préparent des compétitions, par exemple, mais je peux aussi l'utiliser, par exemple, en préparation d'examen ou ce genre de choses, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le geste témoin. Donc, c'est par exemple, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en amont, mais qui peut servir en période d'urgence. C'est à chaque fois que je suis dans une situation de détente, donc ça peut être en yoga ou ailleurs, je suis dans mon bain, je suis à la plage, n'importe, un moment où je sens que je suis bien, que mon système nerveux est tranquille, etc., c'est de faire un geste très simple que je peux faire à n'importe quel moment, par exemple serrer le poing. Et ce geste-là, si je le fais de façon extrêmement régulière quand je me sens bien, au moment où j'ai un pic de stress, de tension, etc., je peux refaire ce geste, c'est souvent ce qu'on fait juste avant un examen, ou juste avant de démarrer une compétition sportive, etc., je fais le geste, et ça va permettre de recréer en fait le circuit qui associe le geste à l'état dans lequel je suis la plupart du temps quand je le fais. Et dernier aspect, c'est de réussir à évaluer sur le moment, quand je suis en train de vivre l'émotion intense, de quoi j'ai besoin. Et souvent, la réponse, elle est assez binaire. Soit j'ai besoin de libérer l'énergie, soit j'ai besoin de ralentir. Donc si j'ai besoin de libérer l'énergie, par exemple, je sais pas, je vais faire une conférence et j'ai le trac, ou je dois avoir une conversation avec quelqu'un et je sais que ça me stresse, etc. Peut-être que mon option, c'est de faire du shaking, c'est de mettre la musique à fond et de danser. C'est d'aller faire une heure de course à pied. C'est d'aller dans une forêt et de crier. Donc c'est libération de l'énergie. Et l'autre option, et ça dépend des cas, mais plus on avance, plus on se connaît et plus on sent en fait ce qui est juste pour soi, c'est au contraire de baisser le niveau de stimulation. Faire du yoga nidra, faire du yoga restauratif, pratiquer la méditation, pratiquer la relaxation, faire une sieste, être en silence. Et voilà, et tout ça, c'est des pratiques qui sont autour du yoga et qui permettent d'avoir une trousse de secours quand on traverse l'émotion de la peur.
Eh ben, merci beaucoup pour cet échange et puis pour tous ces conseils très pratiques en fait face à cette émotion. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut pratiquer avec toi si on a envie de te connaître ?
Oui. Alors, je propose donc des sessions que j'ai appelées sessions intensives. Donc, elles ont d'intensif surtout le nom et on va dire la profondeur qu'on aborde, mais c'est pas forcément intensif au sens de l'expérience qu'on doit avoir pour faire du yoga. Ça reste ouvert à tout le monde. Donc, je propose ça à la fois au studio Ki dans le 9e arrondissement. En général, c'est le samedi après-midi, soit le mardi soir dans un autre studio qui s'appelle l'Espace République. C'est des sessions qui sont regroupées sur 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, on va travailler sur une thématique, et puis ensuite il va y avoir une pause, et puis pendant les 4 semaines plus tard, on va travailler une autre thématique. Donc ça peut être la peur, ça peut être le printemps, ça peut être la pratique de l'ashtanga, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, je choisis un thème qui m'est cher en général, et je vais mettre à l'intérieur de ces sessions, comme c'est des sessions qui durent 2 heures, je vais mettre à l'intérieur vraiment tout ce qui m'anime, la pratique du yoga, mais aussi le mouvement libre, le shaking, etc., entre autres. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je propose des cours en Zoom. Donc là, on peut retrouver des informations sur mon Instagram, Taïa Veri Yoga avec 2 Y sur Instagram. Donc je propose des cours en Zoom 3 fois par semaine. Et en parallèle de ça, je donne des cours privés. Donc là, c'est pareil, vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Et des cours collectifs au studio Ki Paris 9e, le dimanche et le lundi.
Ok, super. Bah, de toute façon, je remettrai effectivement ton compte Insta dans la description du podcast pour que les gens puissent te retrouver facilement. Merci beaucoup, Taïa.
Merci à toi, Laura.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite avec un nouvel échange autour du yoga. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à me mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. À bientôt.